Bonjour à tous nos auditeurs de Radio Grand Ciel et bienvenue dans notre émission.
Bonjour Jérusalem.
Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Elisabeth Couget et de Christophe Jubien, journaliste à Radio Grand Ciel, qui lui sera notre technicien en absence de Simon, qui est toujours en congé.
Bon, j'espère qu'il en profite bien.
J'espère aussi.
Bonjour Christine et bonjour Christophe. Quel est le sujet dont vous voulez nous parler ce matin?
Eh bien, on va parler d'une météorite qui aurait détruit une cité antique, inspirant ainsi l'histoire de Sodome et Gomorre.
Ah, racontez-nous, Christine, cela me semble bien intéressant. Qui ne connaît pas l'histoire de la destruction de Sodome et Gomorre, telle que c'est raconté dans la Bible?
Eh oui, tout le monde connaît ça. Alors, les scientifiques, dans une étude publiée en début octobre de cette année, rapportent qu'une civilisation ancienne dans le secteur de la mer Morte aurait été totalement anéantie par une explosion aérienne, c'est-à-dire dans les airs, d'une puissance comparable à une arme atomique entraînée par la chute d'une météorite qui aurait ainsi détruit les villes et apporté du sel dans la terre, il y a environ 3600 ans. Rendant la région inhabitable pendant des siècles. Ils affirment également que cet événement dramatique aurait pu servir de source d'inspiration au récit biblique de la destruction de Sodome et Gomorre.
Alors, quelles sont les conclusions de cette étude, finalement?
Elle a été réalisée par une équipe scientifique multidisciplinaire ayant pris part au projet de fouilles jordanien de Tal el-Hammam, publié dans un journal sur Internet qui est nommé Nature Scientific Reports.
Voilà. Alors, que raconte-t-elle?
Le fait que des éléments indiquant une mort soudaine et des destructions ayant entraîné l'effondrement des bâtiments, la fonte des poteries, laissant derrière eux un paysage désert, carbonisé, font état que les villes et les implantations humaines environnantes avaient été anéanties par une explosion aérienne plus forte que celle qui a été survenue à Tunguska en Russie en 2008, où une météorite qui avait chuté avait explosé avec 1000 fois plus d'énergie que la bombe atomique qui s'était abattue sur Hiroshima.
Ces divers éléments pourraient aider à résoudre un mystère. Pourquoi l'une des régions agricoles les plus productives, qui avait permis de répondre aux besoins de dizaines de milliers de personnes pendant plus de 3000 ans, était-elle soudainement morte? Était-elle restée déserte pendant plusieurs centaines d'années?
Bon, elle s'offre peut-être, il est certain même, l'origine du récit biblique de la ville de Sodome, comme décrit dans la Genèse. Alors, Dieu fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorre du soufre et du feu. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. Selon la Bible, Dieu aurait décidé de détruire Sodome en raison de la perversité de ses habitants.
En tout cas, c'était ça, effectivement, l'explication.
Alors. C'est vrai.
On note également dans ces conclusions qu'il y a un débat en cours pour savoir si Tal el-Hammam pourrait être la ville biblique de Sodome. Néanmoins, les traditions orales concernant la destruction de cette ville urbaine par un objet cosmique pourrait être la version à écrire de Sodome dans la Genèse.
Les détails racontés dans la Genèse pourraient également correspondre raisonnablement à ceux connus d'un événement d'impact cosmique. C'est probable. La description de la Genèse de la destruction d'un centre urbain dans la région de la mer Morte est cohérente avec le fait d'un témoignage oculaire d'une explosion aérienne cosmique et cela pourrait correspondre à des pierres tombées du ciel. Le feu est descendu du ciel, une fumée épaisse s'est élevée des feux, une grande ville a été dévastée, les habitants de cette ville ont été tués et les cultures de la région ont été détruites.
Et bien voilà, elle a une citation qui correspond à tout ce qu'ils amènent. Effectivement. Ben oui. Hormis ces descriptions et des détails, cette équipe a-t-elle découvert des preuves réelles?
Eh bien, les scientifiques ont pu examiner des grandes lignes de preuves qui ont causé la destruction de Tal el Amman. Poteries, briques qui ont fondu à des températures extrêmement élevées, du carbone semblable à du diamant formé à haute pression et à haute température, ainsi que des preuves de minéraux qui auraient fondu à des températures de plus de 2500, c'est-à-dire 4500 degrés.
Oui, 2500 Celsius, oui, c'est ce qui nous intéresse. Oui. Alors, y a-t-il d'autres causes possibles éventuellement?
Il pourrait en effet y avoir d'autres causes. Comme les guerres, les tremblements de terre, les éruptions volcaniques. Mais seule l'explosion massive de type nucléaire, par exemple, une météorite, pourrait expliquer les preuves recueillies.
Mm-hmm. Enfin, d'autres preuves ont-elles été trouvées?
En effet, les circonstances et l'état des os et des fragments humains suggèrent qu'au moment de leur mort, ces personnes vaquaient à des activités normales à l'intérieur du palais, sur le périphérique supérieur et ou sur le rempart au-dessus de la route, où elles ont été frappées par une impulsion thermique à haute température, suivie d'une onde de souffle à hypervitesse provenant d'une explosion aérienne cosmique, catastrophique, comme l'indique d'ailleurs l'étude faisant le parallèle avec un événement similaire enregistré en 1908 à Tunguska.
À Tunguska.
En Russie.
Alors, et que s'est-il passé donc alors?
Eh bien, en 1908, une explosion massive près de la rivière Tunguska en Sibérie a rasé quelque 2000 km² de taïga forestière inhabitée.
Mmh. Heureusement.
Comme aucun cratère n'a été découvert, les scientifiques expliqueraient cet étrange phénomène par l'explosion d'un météore à quelque 5 ou 10 km au-dessus de la Terre.
Ah, et s'il y a parallèle avec l'événement de la destruction de Sodome, eh bien, on pense alors que l'augmentation soudaine de la salinité de la terre, qui l'a rendue impropre à l'agriculture pendant plusieurs centaines d'années, est en relation avec tout ça.
Voilà. Alors, c'est vrai que cet abandon de plusieurs siècles est particulièrement déroutant, étant donné que cette région contient les terres agricoles les plus fertiles dans un rayon de plusieurs centaines de kilomètres à travers la Jordanie, Israël et la Palestine. La destruction a été si remarquable et si répandue que le nom de la région est devenu Abel, c'est-à-dire les terres du deuil, et qui ne pouvait avoir été causée par un événement régulier, mais plutôt par une catastrophe régionale, mettant fin d'ailleurs à une civilisation qui a dépeuplé plus de 500 km² du sud de la vallée du Jourdain pendant 3 à 7 siècles. L'hypothèse ainsi soulevée serait une explosion aérienne au-dessus de la mer Morte, hautement salée, distribuant l'eau hypersaline dans toute la région.
Mmh, voilà une bonne explication. C'est d'autant plus vrai que les survivants de l'explosion n'auraient pas pu cultiver et auraient été probablement contraints d'abandonner la région, les terres n'ayant ont pu redevenir arables qu'après quelques 600 ans.
Oui, alors c'est vrai que le pic de salinité dans la région fournit donc un lien supplémentaire avec le fameux récit biblique de Sodome. Car lorsque Lot et sa famille ont fui la ville, sa femme a désobéi à Dieu et s'est retournée pour voir la destruction. C'est ainsi qu'elle fut changée en statue de sel.
Ah, voilà, oui, une bonne explication. Alors, il y a eu bien sûr des contestations quant à l'emplacement exact du site Tal el Amman et son inspiration de la destruction de Sodome.
Évidemment, oui, s'agissant d'un exemple de preuve rassemblé pour soutenir l'identification du site comme Sodome, ils en ont d'ailleurs conclu que cette hypothèse d'explosion impact ferait de Tal el Amman, la deuxième plus ancienne ville qui aurait été détruite par une explosion ou un impact qui a fait de nombreuses victimes humaines. Après Abu Huraira, en Syrie, il y a environ 12 800 ans. Mm-hmm. Ça date.
Oui, ça date, bien sûr. Mais aujourd'hui, on arrive quand même à revoir pas mal de choses. Bon, c'est vraiment extrêmement intéressant. Alors, je crois qu'on va faire une petite pause musicale pour qu'on ait le temps d'y penser un peu.
شير معلوت لدافيد هني ما توب منعيم شيبت أحيي الكريم جميع حد كشيم أتوب على روش.
Nous revoici sur Radio Grand Ciel et nous poursuivons notre émission Bonjour Jérusalem avec Christine Simon, bien sûr, et notre ami Christophe qui nous aide à la technique. Alors Christine, après cette pause musicale, quel est le nouveau sujet que vous allez nous raconter maintenant ?
Alors, on va rester dans les découvertes et je voudrais vous faire part de la découverte d'un site industriel dans la fameuse ville de Yavne, au sud de Tel Aviv, construit il y a environ 1500 ans et pouvant produire 2 millions de litres de vin vendus dans la région. Et ça, alors, c'est une vraie découverte.
Ah, d'accord. Alors, donc, de quoi se compose exactement ce site industriel ?
Eh bien, ce site compte 5 pressoirs, des entrepôts pour la maturation et l'embouteillage du vin, ainsi que des fours pour fabriquer les amphores dans lesquels le vin est bien sûr stocké.
Alors, de quelle époque se daterait cet ensemble ?
Ben, il semblerait que cet ensemble date de l'ère byzantine, c'est-à-dire aux environs du 4e et du 5e siècle de l'ère
de notre
actuelle.
Ère, voilà, après Jésus-Christ, voilà, d'accord.
En fait, ce serait le plus grand complexe de ce type qui aurait existé à cette période, bien sûr connu à ce jour.
Bon, alors racontez-nous, qu'est-ce qu'ils ont découvert ?
Alors, les archéologues, toujours eux bien sûr, ont découvert des jarres intactes qui étaient enterrées, ainsi que des dizaines de milliers de fragments d'amphores sur le site, présentant également des routes d'accès bien planifiées et entre les différentes structures. Ils ont indiqué que la taille du complexe et sa capacité à produire manuellement une quantité extrêmement importante de vin étaient tout à fait inattendues et dans un communiqué conjoint, le docteur Eliat Nadav Ziv ainsi que le docteur John Seligman évoquent la surprise ainsi de découvrir une usine sophistiquée utilisée pour produire du vin en quantité commerciale et de plus, les niches en forme de conques qui décoraient les pressoirs prouvent la grande richesse des propriétaires de cette structure.
C'est vraiment étonnant. Alors, un calcul de la capacité de production de pressoirs montre bien alors qu'à peu près 2 millions de litres de vin étaient commercialisés chaque année. Et ce travail se faisait à la main. Alors, il faut savoir que l'eau à l'époque n'était pas souvent stérilisée, le vin étant une boisson très habituelle pour les adultes comme pour les enfants, c'est ce qui leur paraissait plus sain.
Bien sûr, ça paraissait beaucoup plus sain, vu que l'eau n'était pas...
Pas toujours,
N'était pas
exactement.
Propre, alors, bien sûr, chaque pressoir à Yavne s'étend sur un périmètre d'environ 225 mètres carrés, avec une chape qui permettait aux ouvriers, pieds nus, d'écraser les raisins. Ça me rappelle des souvenirs.
Oui, ah ben c'est
autour,
tout à fait ça.
Bien sûr, on trouvait des compartiments séparés, ainsi que des cuves qui servaient à la fermentation et au stockage du vin. Entre les pressoirs, 4 grands entrepôts où le vin pouvait vieillir dans des amphores fines, connues sous le nom de jarres de Gaza, étaient ainsi fabriqués directement sur le site de ces grands fours.
Mm-hmm. Alors, peut-on penser que le vin de Gaza d'Ashkelon était considéré comme un produit de qualité dans l'Antiquité ?
Ben, tout à fait, puisque cette réputation allait bien au-delà de la région où se trouvent les pressoirs. Ce vin était commercialisé par l'intermédiaire des ports d'Ashkelon et de Gaza. Il avait donc hérité de ce nom et était transporté dans tout le bassin méditerranéen.
Alors on apprend aussi, il me semble, que les fouilles entreprises à Yavne ont permis de découvrir des pressoirs plus anciens encore, datant d'environ 2300 ans plus tôt alors.
Oui,
c'est la période de l'Empire perse. Oui, c'est ça.
C'est vrai qu'on dit aussi que dans la Mishnah, c'est la tradition orale juive, après la destruction de Jérusalem à l'an 70 de l'ère commune, de l'ère actuelle, les gouvernants juifs étaient partis pour Yavne et les sages de Yavne avaient vécu dans un vignoble tout en étudiant la Torah.
C'est agréable, finalement.
Ben oui.
Je sais pas, il parle pas d'un lit qui pend entre deux arbres, voilà, c'est ça, c'est formidable ça. Alors, sans aucun doute, ces fouilles témoignent d'une continuité de l'existence de l'industrie du vin sur le site pendant de nombreux siècles. Et il est fort à parier que ce site sera préservé et protégé avant les vicissitudes du mauvais temps.
C'est intéressant,
tout à fait. Vraiment, vraiment, bravo Christine. Je sais pas où est-ce que vous trouvez ces sujets.
Mais secret.
Secret de fabrication.
Secret de fabrication.
D'accord. Bon, alors, je vous propose une nouvelle petite pause musicale avant de passer au sujet suivant, que j'espère sera aussi intéressant que ces deux précédents.
Miss Mone David Adonai Ro'el Wahsan.
Nous revoici sur Radio Grand Ciel dans l'émission Bonjour Jérusalem, et Christine va nous raconter l'histoire vécue par Daniel Sasson dans les divers ghettos juifs au Moyen-Orient. Alors, voilà Christine, racontez-nous, et merci encore à Christophe de nous accompagner à la technique. Alors tout d'abord, qui était Daniel Sasson? Je dirais juste une petite chose. Pour moi, dans les années 70, il y avait un Sasson qui avait inventé une coiffure des femmes qui a traversé toute l'Europe, et donc je m'en souviens de ça.
Non, mais c'est pas du tout son cas, malheureusement.
C'est rien à voir.
Ça n'a rien à voir. Bon, c'est vrai,
c'est un Israélien, non?
Comment?
C'est un Israélien.
Oui, c'est un Israélien d'origine irakienne, hein, bien sûr, qui est né Riyat Izzat al-Sasson Mualem à Diwania. En Irak.
Pardon.
Alors, il raconte bien sûr les ghettos juifs et les pelotons d'exécution du dictateur Rachid Ali Galini, enhardi bien sûr par Hitler au Moyen-Orient. Alors, installé au sein de l'État juif, Daniel Sasson a servi le Tzal. Je crois que c'est une organisation secrète, plus ou moins.
Ah oui, le Tzal.
Le Tzal. Dès l'âge de 15 ans, et aujourd'hui, à 85 ans, il y vit toujours.
Bon, il aura pu être coiffeur entre les deux, mais bon, visiblement, c'était pas ça.
Pour l'instant, il n'est pas question.
Exactement. Alors, pourquoi s'est-il... Allez, redevenez sérieux. Pourquoi s'est-il lancé dans cette histoire?
Il explique que cette histoire... devait être connu et souligne véritablement le lien entre les ghettos nazis d'Europe et le ghetto en Irak. Depuis son domicile situé à Ramat Gan, banlieue de Tel Aviv, et comme on l'a dit, âgé de 85 ans, Daniel Sasson a voulu mettre en lumière ces faits estompés par l'histoire que lui et d'innombrables autres juifs irakiens ont bien entendu subi.
Subi les malheureux. Et de quelle façon a-t-il raconté ces événements?
Eh bien, tout simplement au travers d'un ouvrage intitulé tout simplement « L'histoire tue, le premier et dernier ghetto en Irak ». Disponible en hébreu, il dépeint ainsi son enfance en Irak et raconte comment une alliance conclue entre Hitler et le premier ministre irakien Rachid Ali al-Galini avait temporairement modifié l'équilibre des pouvoirs dans ce pays.
Alors, que disait alors de cette alliance?
L'Irak avait soumis ses 150 000 juifs, c'est-à-dire un chiffre quand même approximatif, un antisémitisme importé d'Allemagne. Ces juifs avaient été forcés de vivre dans un ghetto et ils avaient finalement été massacrés lors d'un pogrom, le Faroud, qui avait été lui aussi inspiré par les nazis.
Mmh. À l'époque, la famille royale irakienne soutenait les Britanniques, qui avaient déjà géré un premier mandat en Irak à l'époque.
Oh, oui. En effet, le Royaume-Uni avait imposé des sanctions économiques dures en représailles. Et le fameux sieur al-Galini, nationaliste ardent, s'était aligné pour sa part sur les forces de l'Axe, cherchant à minimiser l'influence de l'Angleterre dans son pays, c'est-à-dire l'Irak.
Oui, c'est ça. Alors j'imagine que cela ne fut pas sans conséquence pour les Juifs.
Non, hélas, effectivement, la relation entre Galieni et Hitler avait entraîné des répercussions antisémites qui avaient mené à ce fameux pogrom en 1941, le Faroud, suivi par l'exode final de la communauté juive, forte de 2500 personnes, et notamment celui de la famille de Sasson qui s'était enfui vers la terre d'Israël. Alors, bien que la famille Sasson était considérée importante et bien établie dans sa localité, elle n'a pas été pour autant épargnée par les atrocités quand Al-Ghailani avait ordonné qu'un ghetto juif soit établi à Diwania, petite ville située à environ 158 km au sud de Bagdad. Mm-hmm.
Christine, le titre du livre, comme tu disais, une histoire tue. Le premier et dernier ghetto en Irak ne peut-il passer inaperçu quand même ?
Non, non.
Parce qu'on en a, j'ai pas trop entendu.
Oui, mais c'est une histoire qu'on ne connaissait pas beaucoup, et c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler pour la mémoire. C'est en effet, Elisabeth, si vous le voulez bien, nous débuterons l'histoire par l'édification de la maison du grand-père de M. Sasson, qui avait été un premier choix pour accueillir le ghetto.
Ah,
voilà. Alors, c'était prévu pour ça. Cette belle et imposante demeure mesurait environ 750 mètres de long et, à cette époque, était la plus grande habitation privée de Diwania. Elle avait hébergé les 600 juifs de la ville, plus 70 autres venus de Bagdad et d'autres localités pendant tout le mois de mai de l'année 1941.
Ah oui, d'accord. Mmh. Qu'en a-t-il été ensuite ?
En 1937, le nouveau maire, un antisémite notoire qui portait le nom
donc
de Khalil Azmi,
avait
déclaré que cette construction était illégale sous de faux prétextes et l'avait complètement détruite. Sans se laisser dissuader, bien sûr, la famille était temporairement partie pour Bagdad. Et le père de M. Sasson avait embauché un avocat reconnu pour poursuivre la municipalité de Diwania. Le procès avait été gagné en 1941 et le gouvernement avait été placé dans l'obligation de souscrire à la reconstruction de la demeure.
Ah oui, je comprends pourquoi ils ont choisi cet endroit-là 4 ans plus tard, en 1941. Ben oui. Alors après cet événement, je pense que l'avenir de la famille était compromise.
En effet, puisque...
Compromis, pardon.
Oui. En effet, puisque la famille est revenue à Diwania, où elle avait été accueillie par des policiers armés qui avaient arrêté la voiture, sorti les occupants de l'habitacle et les avaient empoignés, les jetant comme des sacs de farine dans la demeure ayant appartenu au grand-père de M. Sasson. La propriété tout entière était surveillée par la police et il était apparu clairement qu'elle servirait de présent à l'avenir pour la population juive de la ville.
Mmh. On comprend mieux alors que l'installation d'un plus grand ghetto ne pouvait se faire et que le gouvernement d'Al-Ghailani avait choisi alors de regrouper les Juifs sous un seul toit et de les assigner à domicile. Comment la vie s'est-elle organisée au quotidien pour ces malheureux, Christine ?
Très difficilement, bien sûr, pour se nourrir. La nourriture se consistait en quelques olives quotidiennes avec du pain volé certains jours. La faim avait épuisé les corps. Les femmes s'étaient installées à l'arrière du bâtiment et les hommes étaient confinés sur le devant. Les communications devinrent restreintes entre les deux groupes. À 19h, on arrosait les arbres qui poussaient le long de la rivière, par exemple.
Ah oui, d'accord. C'était peut-être un moyen de se communiquer, de se voir.
Oui, voilà, c'était
peut-être
l'un des moyens qui leur permettait
de se parler peut-être.
Avec l'autre groupe.
Ah oui, d'accord. Ouais. Alors, dans son livre, Daniel Sasson se souvient de la faim intense qui régnait dans ce ghetto, en particulier la nuit et pour les enfants. Il devait décrire tout ce qu'ils ont vécu, voilà.
C'est sûr, il faut savoir que l'accès à la cuisine était interdit aux femmes, ne serait-ce que pour préparer les pommes de terre. Donc on les mangeait crues. Chaque jour, les corps étaient plus faibles, plus malades. Les nuits étaient toutes les mêmes, avec les gémissements continus des enfants qui, bien sûr, avaient faim. Mm-hmm.
Le livre fait donc état d'un ami d'enfance de Daniel Sasson, Khaled Moussa, qui était juif, mais portait un nom arabe. Lui et sa mère ont pu ainsi échapper au ghetto grâce à une famille musulmane qui leur avait offert l'hébergement.
Tout à fait. La rivière qui séparait les familles Musa et, la famille Sasson faisait 200 mètres à peu près. Mm-hmm. Des voisins arabes musulmans avaient caché Khaled Musa et sa mère pendant un mois. Mais son père et ses oncles avaient été, eux, envoyés au ghetto. Personne ne savait pour combien de temps cet enfermement allait durer.
Alors, il semblerait que le premier ministre pro-nazi Al-Gailani avait l'intention d'installer de nouveau des ghettos entre Bagdad et Basra dans le sud du pays.
Oui, c'est vrai, hein, parce que le ghetto qui avait été, lui, divisé en trois sections, dans la première et la plus importante, se trouvaient les hommes, les femmes et les enfants étaient rassemblés dans la deuxième, et la dernière servait de base d'opération pour les policiers qui montaient la garde. Un tank de l'armée installé à l'angle du jardin assurait une surveillance de 24 heures sur 24, en plus d'une patrouille entre le camp des hommes et celui des femmes, interdisant ainsi tout contact avec les deux groupes.
C'était vraisemblablement une situation tout à fait intenable.
Oui, alors que tout semblait calme, Sasson, encore un enfant, fut lui le témoin involontaire de la libération des Juifs. Qui arriva sans avertissement. J'avais remarqué que les gardiens qui se tenaient là en permanence étaient partis, et à l'endroit où se tenaient habituellement les policiers, ces derniers avaient eux aussi déserté leur poste.
Et alors pourquoi ? Que s'était passé ?
Les Juifs devaient apprendre après que les soldats britanniques avaient envahi le pays et qu'Al-Ghilani avait été destitué. 1941, oui. Le groupe tout entier avait chanté la prière de Shema à l'unisson, et à ce moment précis où chacun s'apprêtait à retourner chez lui et à reprendre son quotidien, on observait que les visages étaient abîmés, les barbes avaient poussé et les vêtements étaient devenus beaucoup, beaucoup trop grands.
Eh bien oui, ils ont tous maigri, les malheureux. Quel était l'événement dont Daniel Sasson fut involontairement témoin ?
C'est-à-dire que le jeune Sasson avait décidé de rendre visite à son oncle qui habitait dans la ville de Chamaya, à 35 km environ. 1er juin 1941 était la fête juive de Shavuot, installée près de la fenêtre pour découvrir son nouvel environnement. Un bruit assourdissant atteint l'oncle de Daniel Sasson,
qui fut touché à mort. Ah oui, il y avait des agresseurs apparemment qui avaient utilisé toutes les armes imaginables, n'hésitant pas à écraser les Juifs avec leurs véhicules, alors que certains Juifs avaient été accueillis par leurs voisins musulmans qui, à ce moment-là, avaient accepté eux aussi de se mettre en grand danger. Voilà, je crois qu'on va s'arrêter là. On peut pas continuer parce que je pense que Christophe est en train de nous montrer qu'il va obligé de couper le sang. Oui. Voilà, notre temps pas. C'est-à-dire qu'il faut laisser la place aux émissions suivantes, n'est-ce pas?
En tout cas,
je pense que c'est une émission qui était très intéressante et très importante. Et c'est Daniel Sasson. Heureusement qu'il a écrit ce livre. Donc, si vous avez l'occasion de le lire, lisez-le, essayez de le trouver. Et c'est certainement passionnant. Et voilà, merci Christine. Pour tout ça, et je vous donne rendez-vous pour le mois prochain, pour une nouvelle émission. Bonjour Jérusalem.
À très bientôt.
Shir ha'malot le David, luli Adonai sheheyelenu yomarna. בקום עלינו אדם אזי חיים בלעונו בחרות הפעם בנו אזי עבר על נפשנו המים מזידונים ברוך אדוני שלא נתננו ת דרף לשיניהם, נפשינו כציפונים לטעם.